Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain des élections législatives en Israël, tout indique que Benjamin Netanyahou est bien parti pour un cinquième mandat. Le Likoud est en position de former une coalition, même si l'adversaire de centre-droit, Benny Gantz, est au coude à coude. Il y a 100 jours, Jair Bolsonaro accédait au pouvoir au Brésil, mais le président d'extrême droite est rapidement sorti de l'état de grâce, nous dira Agne Vigna. Nous reviendrons sur le dernier rebondissement en date du Brexit. Les Européens pourraient se montrer moins inflexibles qu'annoncé quant à un nouveau report de la date de sortie de l'Union pour le Royaume-Uni. Enfin, la peine de mort dans le monde, elle régresse. C'est ce que constate le dernier rapport de l'ONG Amnesty International. Ce sera très probablement un cinquième mandat pour Benjamin Netanyahou, dont le parti conservateur, le Likoud, remporte selon les derniers résultats les élections législatives en Israël. Face à lui, son principal rival de centre-droit, Benny Gantz, est au coude à coude avec 36 sièges contre 37 pour le Likoud. Dans tous les cas, l'arithmétique des alliances place le Likoud en position de force, ce qui devrait amener Bibi, comme l'appellent les Israéliens, à dépasser le record d'exercice du pouvoir dans le pays, record jusque-là détenu par David Ben-Gourion. Les précisions sur place à Tel Aviv du correspondant de France Culture, Étienne Monin.
Dans une ambiance survoltée, dans une salle dans laquelle on voit des banderoles avec le nom de Donald Trump, après avoir embrassé plusieurs fois sa femme, Benjamin Netanyahou, visiblement très heureux, se dit presque surpris de l'ampleur de sa victoire. D'après les premiers résultats provisoires, le Likoud ferait un score historique, le Premier ministre sortant serait le plus à même de former une coalition appuyée sur les ultra-orthodoxes, une formation centriste et les partis d'extrême droite. Sa stratégie pour siphonner les petites formations radicales a fonctionné. Deux partis de droite qui l'embarrassaient sont menacés de disparition. Il aurait une majorité plus large que sur la dernière élection en 2015. Hier, il a dit qu'il comptait former un gouvernement national stable. Ce sera un gouvernement de droite. Il n'y aura pas donc d'ouverture vers son adversaire du centre, mais dans une formule que peu de gens dans l'opposition vont croire, il ajoute qu'il compte être le Premier ministre de tous les Israéliens.
Lui est arrivé au pouvoir il y a 100 jours. Au Brésil, Jair Bolsonaro fait face au premier mécontentement. En l'occurrence, plusieurs sondages d'opinion montrent que ces mécontentements sont les plus nombreux pour un président en début de mandat depuis 1985 et le début de la démocratie au Brésil, avec 32% seulement de bonnes opinions sur sa façon de gouverner. Les précisions sur place d'Anne Vigna.
À Rio de Janeiro, il y a toujours des inconditionnels de Jair Bolsonaro, ceux qui ne veulent pas parler de bilan après 3 mois au pouvoir, comme Graciela, une vendeuse ambulante.
Le Brésil est en crise. La majorité ici a voulu un changement et a voté pour Bolsonaro. Il est au pouvoir depuis 3 mois, il ne peut pas faire de miracle. De toute façon, ça ne peut pas être pire que ce qu'on connaît déjà.
Et puis il y a les déçus, ceux qui, comme Rodrigo, avaient voté Bolsonaro en octobre dernier.
Moi, je crois que Bolsonaro est perdu. Il est président maintenant, alors il essaye de faire quelque chose, mais je ne crois pas que son gouvernement ait un avenir.
Pour ce comptable, ce qui l'a le plus choqué, c'est la publication d'une vidéo pornographique sur le compte Twitter du président pour critiquer le carnaval.
C'était infantile de sa part de publier une vidéo érotique pour être vu par le monde entier. Ce n'est pas une attitude de président de la République d'aller tout le temps sur Twitter quand on a une charge si importante comme président.
La popularité de Bolsonaro a chuté en 3 mois dans son électorat, sauf chez les évangéliques qui lui restent fidèles. Les Brésiliens doutent aussi de sa capacité à améliorer la situation économique et la lutte contre la corruption, de promesses de sa campagne électorale.
À Khartoum, au Soudan, les manifestations anti-gouvernementales continuent. Des attaques sont menées tous les matins depuis samedi par des hommes masqués contre ces manifestants. Elles ont fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Les opposants réclament le départ du président Béchir. Une figure de l'opposition, Sadiq Al-Mahdi, a demandé une médiation des militaires. Jugé impossible, et il y a quelques jours seulement, le Conseil européen de crise qui se tient aujourd'hui à Bruxelles pourrait bien finalement valider l'idée, un nouveau report du Brexit, une nouvelle date butoir, peut-être même plus longue que ce qu'espérait la première ministre britannique. Theresa May est allée rencontrer ses homologues allemands et français hier pour plaider sa cause. Les deux dirigeants ne sont pas opposés à l'idée, mais pour Emmanuel Macron, ce ne sera pas sans condition. Les précisions de Louise Baudet.
La carte postale berlinoise est certes plus détendue, le soleil plus radieux et les sourires plus francs. Mais à Paris aussi, Theresa May a finalement obtenu ce qu'elle voulait, une nouvelle date butoir pour le Brexit. 1er juin, 30 juin ou début 2020, le délai reste à fixer, mais aussi les contreparties. Pas question pour Emmanuel Macron de laisser les Britanniques semer la zizanie. En cas de nouveau report, ils resteront dans l'Union et enverront des députés à Strasbourg. Il faut donc exiger d'eux un code de conduite strict, une clause de revoyure tous les 3 mois et la neutralité sur les sujets clés, présidence de la commission ou budget pluriannuel. Conditions plus ou moins réalistes, mais le fait est que ni Paris, ni Berlin, ni aucun des 27 n'est prêt à porter la responsabilité d'un no deal. Et tant pis si Theresa May ne présente pas de plan B, qui était la contrepartie jusqu'ici réclamée. Les discussions entamées avec son opposition travailliste, même au point mort, pourraient finalement suffire à justifier le report qu'elle est venue chercher.
Louise Baudet, Guillaume Faury, 51 ans, succède aujourd'hui à Tom Enders à la tête d'Airbus. Ses missions prioritaires, augmenter la cadence de la production, négocier les conséquences du Brexit et celui du virage numérique issu de la filière hélicoptère du groupe, Guillaume Faury n'était pas aux commandes entre 2008 et 2013, une période investiguée par la justice pour des transactions irrégulières. En France, les suites parlementaires du grand débat national. Hier, Édouard Philippe présentait les enseignements de ce grand débat que l'exécutif, en tout cas, a choisi d'en tirer devant l'Assemblée. Il a promis que des décisions de l'Élysée s'en suivraient, puissantes et concrètes, selon ses mots, mais pour l'heure, pas d'annonce et une opposition qui a étrillé l'exécutif. À l'Assemblée, le reportage de Simon Le Baron.
À l'arrivée, c'est lui qui décide. Alors forcément, la cible des oppositions, c'est lui, Emmanuel Macron, violemment critiqué par le chef de file des députés LR Christian Jacob.
18 mois après son élection, M. Macron a perdu la confiance. Et plus grave, il a perdu le respect des Français.
Mais le président n'est pas là et Édouard Philippe n'est pas en reste.
Monsieur le Premier ministre, je connais un bon otorino.
Car vous êtes sourd, sourd de l'oreille gauche, lui lance l'insoumis François Ruffin.
Débouchez-vous les oreilles, Monsieur le Premier ministre. Faites péter le cérumen. Enlevez vos boules-tièces, sinon le peuple pourrait bien crier encore plus fort et vous servir d'otorino.
Le chef du gouvernement dit vouloir aller plus loin, plus vite, sans changer de cap. Les oppositions tapent. Marine Le Pen est l'une des dernières à monter à la tribune.
Vous êtes venu devant la représentation nationale pour une restitution des orientations du grand débat en nous disant strictement rien. Mais rien.
Édouard Philippe ne pouvait pas dire grand-chose, contraint lui aussi d'attendre la parole présidentielle.
Parce que c'est la logique des institutions de la Ve République. Et ça ne me posera aucun problème. Au contraire, je suis plus surpris que certains à droite fassent mine de s'en étonner.
Quant à savoir quand Emmanuel Macron annoncera ses décisions, ça non plus, le Premier ministre ne l'a pas dit.
Et puis c'est une initiative inédite, une autre forme d'opposition parlementaire. Le Parti Socialiste a réussi à rassembler 218 voix de parlementaires pour lancer un référendum d'initiative partagée sur le sujet brûlant et polémique de la privatisation d'Aéroports de Paris. Une privatisation en débat depuis 6 mois, dont certains estiment qu'elle serait un cadeau fait à l'entreprise de BTP Vinci. Grâce à ce référendum permis par la Constitution depuis 2008, les députés peuvent invalider cette décision, mais il faudra d'abord franchir un parcours d'obstacles, validation par le Conseil constitutionnel, puis signature par 1/10 du corps électoral. Inès Madani est jugée aujourd'hui pour association de malfaiteurs à visée terroriste. C'est cette femme qui avait été empêchée à temps de faire exploser une voiture chargée de bonbonnes de gaz tout près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle comparait ici pour des faits plus anciens, à savoir son rôle de mentor auprès d'aspirants djihadistes. Elle recule lentement mais sûrement. La peine de mort dans le monde, c'est ce que constate le rapport annuel d'Amnesty International. L'ONG qui mène campagne depuis plus de 40 ans contre les exécutions constate que le nombre de ces exécutions a baissé de 31% en 2018 par rapport à l'année précédente, du jamais vu depuis 10 ans. Nadine Epstein.
En 2018, davantage de pays ont rejoint la liste des États abolitionnistes sur pression publique et internationale contre la peine de mort, peine cruelle, superfétatoire, dégradante et sans effet dissuasif. Ainsi, Amnesty International constate que Bahreïn, Bangladesh, Émirats Arabes Unis, Jordanie, Koweït, Malaisie et Palestine n'ont exécuté aucun prisonnier en 2018, contrairement à l'année précédente. Le Burkina Faso a supprimé la peine de mort dans son nouveau code pénal. La Gambie et la Malaisie ont déclaré un moratoire officiel sur les exécutions. Dans l'État américain de Washington, la loi sur la peine de mort a été décrétée inconstitutionnelle. Dans le même temps, d'autres pays agissent à contre-courant de la tendance mondiale en pratiquant davantage de mises à mort. Le rapport d'Amnesty classe l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et l'Irak en tête des pays qui exécutent. À eux quatre, ils représentent 78% de toutes les exécutions recensées à l'échelle mondiale, hormis la Chine, où les exécutions sont secret défense. Il reste encore plus de 19 000 condamnés dans les couloirs de la mort dans le monde.
Le temps de ce mercredi pluvieux au nord, menaçant au sud, comptait ce matin entre 3 et 8 degrés en général, 10 à 17 degrés cet après-midi.